Charles V, anglais et breton en première ligne. Il a fallu 9 jours pour que la nouvelle de la mort de son père, Jean le Bon, parvienne à son fils Charles, qui devient le nouveau roi de France, Charles V. Un roi qui va devoir faire face aux Anglais, puis aux Bretons, sans tarder. Mais qu'est donc devenu Charles le Mauvais depuis l'assassinat d'Étienne Marcel? Le voici, et toujours aussi agressif. En août 1363, il revendique l'héritage bourguignon. Revendication illégitime, estime le roi Charles V, qui, pour punir le mauvais, lui confisque ses possessions normandes. Cette confiscation ne peut devenir effective que par les armes, de sorte que Charles V doit faire appel à son bras droit, le connétable Bertrand du Guesclin. Le roi ne peut combattre, il est paralysé, du bras droit. Bertrand du Guesclin va rencontrer les troupes de Charles le Mauvais à Cocherel, aujourd'hui Houlbec-Cocherel, près d'Évreux, le 13 mai 1364, où il gagne, avant la bataille contre les Bretons à Auray, où il perd. Pour la bataille de Cocherel, Charles le Mauvais a délégué son commandement à Jean de Grailly qui lui-même va obéir aux alliés des Navarrais, les Anglais commandés par le captal Bouche. Au matin du 14 mai 1364, Bouche et ses troupes ont pris position sur une hauteur. Ils sont persuadés que les Français, comme à Crécy, comme à Poitiers, comme toujours, vont se ruer en chevaliers intrépides et maladroits sur les lignes des archers aux carquois pleins de flèches de frêne. Mais du Guesclin n'est pas si bête. Il attend 2 jours et fait semblant de partir. Les Anglais impatients rompent leur ligne et les poursuivent. Du Guesclin, avant la bataille, a fait raccourcir les lances des chevaliers afin que, descendus de leur monture, ils puissent s'en servir au combat à pied. Lorsque les archers anglais les rattrapent, les Français contre-attaquent. Leurs lances courtes leur permettent de venir à bout facilement d'archers impuissants dans le combat rapproché avec leurs flèches. Ou alors, il leur faut utiliser l'arc à la façon d'un bâton, ou bien les flèches comme une badine sur les cuisses des chevaliers, ce qui est nettement insuffisant. Au soir de la bataille, Bouche rend son épée à du Guesclin. Charles le Mauvais est vaincu. Charles V va-t-il pouvoir s'adonner sans souci à sa passion pour la lecture? Non. Le front de Bretagne se rallume soudain. Jean IV de Montfort et Charles de Blois, qui se disputent le fief breton, accepteraient volontiers de faire la paix. Mais Jeanne de Penthièvre, l'épouse de Charles de Blois, l'héritière du duché, refuse catégoriquement. Elle veut la Bretagne pour elle toute seule, avant de la donner à Charles. Des deux côtés, on se prépare à une nouvelle bataille. Édouard III, le roi d'Angleterre, continue de soutenir Jean de Montfort et lui envoie son fils, le terrible prince noir. Charles de Blois, à qui du Guesclin est venu prêter main forte, concentre ses forces à Josselin et se met en marche le 27 septembre vers Auray. À Auray, le 29 septembre 1364, les deux armées se rencontrent sur une hauteur proche de la ville. Le prince noir lance sur les troupes françaises une attaque d'une telle violence qu'il les taille en pièces. Charles de Blois est tué. Olivier IV de Clisson perd un œil. Du Guesclin n'a plus en main qu'une épée cassée. Le désastre est total. Vainqueur et vaincu décident alors qu'ils se rencontreront à Guérande pour signer un traité de paix. Cette rencontre a lieu le 12 avril 1365. Jeanne de Penthièvre renonce à ses droits. Jean de Montfort est reconnu duc, mais il doit l'hommage au roi de France.
Charles V, en sa librairie, 4 paires de bésicles. Il n'en fallait pas moins au roi Charles V pour lire en toutes occasions les livres qu'il adorait feuilleter et dont il aimait s'inspirer dans son métier de roi. Après tant de sauvagerie, de meurtres, de brutalité, voici le premier roi intellectuel et sensible. Malgré le handicap de sa main droite, il n'en demeure pas moins joyeux, répandant dès le matin la bonne humeur parmi les siens. Il faut l'imaginer passant de longues heures dans la lecture d'ouvrages de sciences politiques, dans la librairie, autre nom donné à une tour du Louvre où il a fait installer les œuvres qu'il aime. On y trouve tout, autant de livres qu'à la Sorbonne, des traités de philosophie, de grammaire, des ouvrages scientifiques, des bestiaires, la Cité de Dieu de Saint-Augustin, qui plaisait tant à Charlemagne, le roman de Renard, le roman de La Rose. Délicat et fin, Charles V. Il s'entoure d'intellectuels. Philippe de Mézières, Nicolas Oresme, Raoul de Presles. Sa bibliothèque sera dispersée à sa mort le 13 septembre 1380. Mais son principe fut repris et elle est considérée comme l'ancêtre de la Bibliothèque nationale.